Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6. Et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, c'est comme le psalmiste, nous disons que c'est par ta parole que tu nous donnes la vie. Cette parole est aussi la source qui nous désaltère. Que ta parole, Seigneur, ce matin, nous donne vie, lumière. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Ésaïe, chapitre 6, à partir du premier verset. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un grand trône élevé. Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Et ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant. » Sa gloire remplit la terre. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché est effacé. » J'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui donc ira pour moi ?» Alors je dis « Me voici, envoie-moi. » Quelle scène saisissante ! Je vous propose d'en garder dans notre cœur et dans notre pensée l'impression pour la fin du message. Parce que le sujet que je tiens à aborder avec vous ce matin est un sujet qui est plutôt inhabituel et qui paraîtra, à plusieurs je pense, éloigné de ce qu'on attend d'habitude d'un message, d'une prédication. C'est du recrutement des pasteurs que je voudrais vous parler du recrutement des pasteurs dans notre union d'église. Alors, chaque année, à cette date, le premier dimanche du mois d'octobre, des informations sont données sur la situation et nous sommes invités à nous saisir de ces informations pour réfléchir, pour prier, pour agir. Alors, je ne sais pas si vous en êtes déjà rendu compte l'année dernière, les années précédentes. Il faut avouer que la chose, généralement, passe plutôt inaperçue. Alors, au mieux, on dit quelques mots aux annonces, on affiche la circulaire, et puis, au fond, pour être un peu cynique, tout le monde s'en fiche. Or, s'il y a quelqu'un qui peut difficilement s'en ficher, ici, c'est moi. Parce que depuis des lustres, c'est moi qui rédige la circulaire. Alors, je ne peux pas faire l'innocent. Alors, pour être plus précis, nous sommes deux, en fait, dans l'Église. Deux sur les 5 membres que comprend la commission, qui est chargée du recrutement des pasteurs. Il y a Christophe Paya et moi. Alors, si moi, qui suis vraiment convaincu de l'importance de la chose, vous allez le voir, j'en suis vraiment convaincu, si je ne fais rien pour vous y rendre sensible, alors c'est vraiment la honte. J'ai quand même conscience que ça n'est pas si facile. Et je vois, par exemple, deux égoïsmes à surmonter. Et la chose n'est pas nouvelle. Parce que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul se plaignait d'être le seul, là où il se trouvait, à s'intéresser vraiment à l'église de Philippe. « Je n'ai personne d'autre, dit-il, personne d'autre que Timothée qu'il va leur envoyer, personne d'autre qui partage mes sentiments pour s'inquiéter vraiment de votre situation. Tous les autres cherchent leurs propres intérêts et non pas ceux de Jésus-Christ. » Alors, le premier degré d'égoïsme, c'est l'égoïsme banal, c'est l'égoïsme ordinaire qui nous fait considérer les choses et les personnes à la mesure des avantages que nous espérons en retirer. Donc, si dans l'église de Meulan, je me sens bien, si les gens sont sympas, ou s'il y en a suffisamment qui sont sympas, si la musique me branche, si les messages ne sont pas trop longs et pas trop ennuyeux, si je ressens assez d'ondes positives, et si en plus je peux valoriser des dons, ah super, ça c'est l'Église, formidable. Mais ne venez pas me parler de difficultés de relations, de services à rendre, de choses à apprendre et de progrès à faire. Alors, ce premier degré d'égoïsme, il nous est commun à tous, et si j'en parle si bien, c'est parce que je l'éprouve aussi. Et il n'est pas si facile à surmonter, et la société de consommation dans laquelle nous baignons ne nous y aide pas. Et c'est pas très surprenant que notre société de consommateurs ait tendance à produire des chrétiens consommateurs, exigeants, capricieux, inconstants et fiers de l'être. Et lorsque nous parvenons à surmonter péniblement et avec souffrance aussi, parce qu'il y a des souffrances à endurer, si nous parvenons à surmonter ce premier degré d'égoïsme, nous rencontrons alors une autre forme d'égoïsme qui est quand même moins individuelle, moins grossière. C'est un égoïsme collectif, altruiste. Nous servons la communauté, comme beaucoup le font parmi nous. Nous nous donnons pour notre Église. Nous nous préoccupons de sa vie, de ses ressources, de sa vitalité. Mais nous avons un peu de peine à voir un petit peu plus loin. Union des églises évangéliques libres de France, c'est quoi ce machin? Et pour le recrutement des pasteurs, ben maintenant nous avons notre pasteur. Nous en sommes contents. Bon, la question ne se pose pas. Pourquoi nous préoccuper du recrutement des pasteurs? Pourquoi nous en préoccuper? Moi-même, lorsque nous commençons à réfléchir, je pense que nous prenons conscience que c'est un raisonnement à très court terme. Que ferons-nous dans quelques années, lorsque Fred nous quittera? Pas trop tôt, hein, pas trop tôt, mais bon, mais ça viendra bien un jour. Hein. Alors que ferons-nous si le recrutement n'a pas été suffisant? Ce n'est pas en quelques mois qu'on forme un pasteur. Ça prend des années. Il faut 5 ans d'études à plein temps, après le bac. Vous voyez bien qu'on doit s'y intéresser. Alors, je vais essayer de vous expliquer assez rapidement comment ça se passe, mais ensuite, si vous voulez des précisions, on peut en parler. Mais avant ça, je sens bien qu'il y a une question que je ne peux pas laisser dans l'ombre, et que peut-être plusieurs d'entre nous se posent. Cette question est la suivante. Les pasteurs, est-ce qu'il en est seulement question dans la Bible? Et est-ce que les églises dont nous parlent les livres du Nouveau Testament, le livre des Actes, les lettres des apôtres, est-ce que ces églises ne sont pas dirigées par des anciens ? Alors j'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question parce que je pense qu'il est possible de lui donner une réponse claire, simple et très sûre. Oui, l'organisation des églises locales à l'époque du Nouveau Testament est assurée par un groupe de responsables plus âgés, les anciens. Mais cette organisation, elle n'a rien de spécifiquement biblique. C'est une organisation spontanée qui est commune aux associations de l'époque, comme partout à l'époque, ce sont les vieux qui dirigent. Ce qui, en revanche, relève de l'enseignement du Nouveau Testament à l'égard de ces anciens, de ces vieux, c'est qu'il faut quand même les choisir un peu en fonction de certaines qualités spirituelles et aussi de certaines compétences. Il ne suffit pas qu'ils soient vieux. Alors ça, c'est l'organisation de l'Église locale. Mais quand on lit le livre des Actes, quand on lit les lettres de Paul en particulier, on voit l'effort considérable que déploie Paul pour assurer des liens entre les communautés. Et pour ça, il prend des jeunes, il les forme et il les envoie dans les communautés avec des missions plus ou moins longues. Et ces jeunes sont chargés de transmettre dans les églises son enseignement. Alors ces délégués, ils n'ont pas de titre, mais on connaît bien leur nom. Ils s'appellent Timothée, ils s'appellent Tite, ils s'appellent Sylvain, Aristarque et d'autres encore. Et il y a une très intéressante symétrie entre ces jeunes formés, mobiles, et les anciens non formés, pas trop formés, sédentaires. Les anciens, on ne connaît pas leur nom. Ils forment dans chaque église un groupe de responsables. Et les jeunes, eux, ils n'ont pas de titre patenté, mais on connaît leur nom. Et ces jeunes, qui par la suite deviendront vieux, comme nous tous, mais il fallait bien les prendre jeunes pour les former, donc ces jeunes qui doivent assurer l'ossature doctrinale des églises. Il faut bien comprendre ce qui se passe à l'époque dans un monde où circulent des gens de tout poil qui enseignent n'importe quoi, c'est comme sur Internet, et qui séduisent beaucoup de gens. Ces jeunes, mais c'est tout simplement le prototype des pasteurs, de ceux qu'on appelle aujourd'hui des pasteurs. C'est aussi simple que ça. Et il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas de titre à l'époque du Nouveau Testament, parce que c'était une innovation, et il n'est pas choquant qu'aujourd'hui on leur donne un titre, qu'on les appelle pasteurs par exemple, parce qu'avec le temps, on a vu que cette innovation de l'apôtre Paul, il fallait l'inscrire dans la durée. Alors aujourd'hui, comment recrute-t-on les pasteurs dans notre union d'église ? Eh bien, on les recrute avant les études, on les recrute pendant les études, on les recrute après les études. Et ce recrutement des pasteurs, c'est un service qui est assuré pour l'ensemble de nos églises libres. Il y a une commission de 5 membres qui instruit les dossiers de candidature, qui veille à la formation des candidats, qui valide les stages qu'ils font et qui valide aussi les années probatoires. Et à la fin de ce parcours de formation, eh bien c'est le synode, c'est-à-dire les délégués de l'ensemble des églises, qui reconnaissent officiellement le service pastoral qui leur est confié en lui imposant les mains. C'est ce qu'on appelle la consécration. Alors je pense que vous comprenez que c'est une lourde responsabilité que de participer à ce service, parce qu'il faut des qualités pour être pasteur. On doit être exigeant lorsqu'on recrute de futurs pasteurs. C'est le bien de l'Église qui est en cause et c'est l'honneur de Dieu aussi. J'espère que vous comprenez qu'une commission qui est chargée de faire ça a besoin de vos prières. Parce que nous risquons de nous tromper. Et je dois avouer qu'une ou deux fois, je pense que nous nous sommes trompés. Si nous sommes trop exigeants, bien nous allons écarter des candidats qui sont vraiment appelés par Dieu et nous privons les églises de ressources que Dieu avait mises à leur disposition. Et puis, si nous ne sommes pas assez exigeants, bien ce sont les églises qui en pâtissent. Qu'est-ce que c'est que ce pasteur que vous nous avez envoyé? Alors, où en sommes-nous cette année? Eh bien, la situation, elle n'est pas vraiment brillante. Nous avons deux candidates. Et ces deux candidates, elles sont plutôt en fin de parcours de formation. Il y a Marjorie Legendre, qui est en stage dans l'église de Paris et qui est en cinquième année d'études à Vaud. Et puis l'autre candidate, c'est une Mexicaine qui s'appelle Irma Sierra et qui est en troisième année d'études à la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. Alors vous demandez peut-être, mais comment se fait-il que nous ayons une candidate mexicaine? Ce n'est pas pour être pasteur au Mexique, c'est bien pour être pasteur en France. Et c'est une personne dont le parcours spirituel nous a impressionnés. Elle a vécu toute sa jeunesse, son enfance au Mexique, et puis elle a vécu au Canada, où elle a obtenu un diplôme de management. Dans le cadre de ses études, elle a fait une année aussi, une année en France. Et au Canada, elle avait un travail intéressant, un travail bien rémunéré. Elle était responsable d'une équipe dans une compagnie d'assurance. Pour nous, c'est un critère important qu'on se croit appelé au ministère pastoral, non pas parce qu'on a tout raté ou parce qu'on n'a pas de travail, mais précisément parce qu'on a réussi et qu'on ressent très fort l'appel pour servir Dieu. Alors, je dis entre parenthèses, parce que je n'ai pas le temps de développer cette question, puisque j'ai mentionné qu'il y avait deux candidates, que nos églises peuvent, si elles en ont la conviction, appeler une femme à être pasteur. Ça n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Et c'est la raison pour laquelle nous validons des candidatures féminines. Alors, si la situation est préoccupante, c'est parce que nous n'avons pas assez de candidats actuellement en préparation pour les années à venir. Et comme il faut 5 ans d'études pour faire un pasteur, si on peut dire, dans 3 ans, si aucun autre candidat en cours d'études, par exemple, ne se présente, ben, il n'y aura personne. Ça vaut la peine de prier. Et ça vaut la peine aussi de nous demander si nous n'avons pas aussi, chacun d'entre nous, notre rôle à jouer, notre part à faire pour susciter des vocations, pour affermir des vocations. Et là, je vous propose de revenir à la vision d'Ésaïe. C'est une vision saisissante. Et je dis, elle est suffisamment saisissante déjà par l'extraordinaire majesté de l'apparition divine. C'est vraiment du très, très grand spectacle. Mais ce qui est encore plus saisissant et bouleversant, c'est cette parole qui est prononcée par le Seigneur dont le seul bas du vêtement remplit déjà le temple, le Seigneur dont la gloire remplit la terre, toute la terre. Il pose une question, comme s'il était pris au dépourvu, comme s'il manquait de ressources. Qui vais-je envoyer? Qui ira pour nous? Reprenons quelques détails de la vision dans l'ordre. C'est l'année de la mort du roi Ozias. Ça n'est pas une circonstance fortuite. Ozias, le roi lépreux, le bon roi Ozias. Vous savez que dans le livre des rois, il y a des bons rois et des mauvais rois. Ozias, c'est un bon roi. Bon, bon, à bien des égards. Mais Ozias est devenu lépreux parce qu'il avait osé pénétrer dans le lieu saint pour y offrir le parfum. Et des prêtres ont essayé de s'opposer à lui, essayé de le dissuader, mais rien n'y a fait. Et alors que le roi tenait l'encensoir à la main, la lèpre a éclaté sur son front, une lèpre qui ne l'a pas quitté jusqu'au jour de sa mort. L'année de la mort du roi Ozias, Ésaïe voit le Seigneur assis sur un trône, sur un grand trône élevé. Où se trouve le trône ? Ésaïe ne le dit pas, mais manifestement le temple est trop petit pour contenir la vision divine. Le seul bas du vêtement suffit à remplir le temple. Ce temple où Ozias avait imprudemment pénétré, le temple suffit à peine pour que Dieu y laisse traîner le bas de son vêtement. Et le Seigneur, sur son trône élevé, est entouré par des êtres qui sont appelés séraphins. Alors, quand nous entendons ce nom de séraphin, je pense que nous pensons à des anges, à ceux que nous trouvons dans les peintures, des êtres à forme humaine, avec des ailes et un gentil visage angélique. En effet, ils ont des ailes, ils ont un visage, ils ont des pieds, ils ont des mains. Mais le nom qui désigne ces êtres, le nom séraphim, c'est un mot qui veut dire brûlant. Et c'est le nom de serpents du désert qui sont mentionnés à deux autres reprises dans le livre d'Ésaïe. Peut-être des cobras égyptiens. Et ils sont parfois représentés dans certains documents d'époque, et même des documents d'Israël, ils sont représentés avec des ailes, des serpents avec des ailes. Surprenant et pas très rassurant. Mais il ne fait aucun doute que ces êtres symboliques sont au service du Seigneur, dont ils proclament la sainteté et la gloire, et leur voix est si forte qu'elle ébranle le seuil de la maison. Alors, comment se fait-il que ce Dieu si grand, ce Dieu dont la gloire remplit le temple, remplit le monde, comment se fait-il qu'il ait besoin, qu'il soit dans le besoin d'un service ? Qui enverrai-je ? Qu'il ait de la peine à trouver quelqu'un pour le servir ? Qui est-ce que je vais pouvoir envoyer ? Est-ce qu'il ne sait pas ? Ce Dieu qui sait tout, qu'il y a là, Ésaïe. C'est lui qu'il va envoyer. Et n'est-ce pas pour envoyer Ésaïe qu'il lui a donné cette vision ? Oui, bien sûr. Dieu sait tout cela. Et Dieu gère tout cela. Mais la question « qui enverrai-je » reste pourtant une vraie question. Une vraie question qui doit résonner très fort en nous. Qui doit résonner en nous lorsque nous voyons que nous avons de la peine à recruter des pasteurs. Comment se fait-il que le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde pour nous sauver, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui siège à la droite de Dieu, qui jugera les vivants et les morts, comment se fait-il qu'il ait de la peine à trouver des pasteurs pour son Église ? La question, elle nous est posée à tous, à chacun de nous. Pour une cinquantaine d'églises, il n'y a pas besoin de centaines de pasteurs. Quelques-uns suffisent. Mais chacun d'entre nous peut bien comprendre que si nous voyons chacun notre travail professionnel, si nous voyons notre vie tout entière au service de Dieu, alors nos églises ne manqueront pas de vocation pour être pasteur. À nous de jouer avec l'aide de Dieu. Amen.